Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et avec nous, bien évidemment, comme toutes les semaines, Jean-Pierre Foultier. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors, nouvelle série de chroniques culturelles de l'Europe, après l'exploration du théâtre européen jusqu'à la semaine dernière, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
En promenade, en rando, en excursion, en voyage même, vous êtes partant?
J'aimerais quand même d'abord savoir où vous nous conduisez.
Sur les chemins européens. C'est ainsi, en effet, que j'ai intitulé cette nouvelle série de quatre chroniques qui devraient nous permettre de visiter le patrimoine européen, mais également d'évoquer ses mobilités, comme on les appellerait aujourd'hui, qui ont fait qu'au cours de l'histoire, les hommes que l'on imagine peu mobiles avant l'invention du TGV, certains d'entre eux en tout cas, se sont déplacés sur toute ou partie du territoire européen, tissant ainsi au fil des siècles des réseaux d'échanges qui ont contribué à dessiner une identité culturelle commune. J'évoquerai ainsi les voyages des étudiants et lettrés, les pèlerinages bien sûr, mais aussi certains trains de légende, et nous finirons par une présentation des circuits balisés et organisés qui permettent aujourd'hui de voyager agréablement et instructivement sur les chemins du patrimoine européen.
Bon allez, je valide mon ticket. Du coup aujourd'hui, quel sentier allons-nous suivre ?
De très vieux sentiers, d'abord, ceux que les hommes de lettres du Moyen-Âge puis de la Renaissance ont parcouru pour parfaire leur instruction, pour connaître d'autres univers de pensée aussi. J'ai eu l'occasion, dans des chroniques précédentes, d'évoquer ces mobilités anciennes. Car on se déplaçait au Moyen-Âge ou à la Renaissance, même si ce n'était ni rapide ni confortable. Ce ne sont pas, bien sûr, les paysans limousins, piémontais ou bavarois qui ressentaient le besoin d'entreprendre ces longs périples et qui n'en auraient de toute façon pas eu les moyens. Même si des étudiants peu fortunés ont parfois pu le faire. C'est le cas d'Erasme, ce penseur et écrivain, j'avais parlé de lui dans une chronique consacrée au programme européen Erasmus auquel il a donné son nom, et qui, dès ses années de jeunesse, quitte sa terre natale des Pays-Bas pour approfondir ses connaissances à Paris. On le retrouvera ensuite à Londres, en Allemagne, en Italie et en Suisse, où il mourra en 1536.
Alors l'Europe de cette époque, c'était donc déjà un peu Erasmus ?
En quelque sorte. Certes, ils étaient peu nombreux, ceux qui avaient les moyens d'aller étudier à l'étranger, même si, dans certains pays comme l'Allemagne, les étudiants étaient encouragés à poursuivre leurs études hors de leur territoire. Ainsi, en 1158, l'empereur Frédéric Barberousse déclarait « que tous les écoliers qui voyagent pour étudier puissent aller demeurer en sécurité ». Qui n'aurait pitié d'eux qui, pour amour de la science, se sont exilés ? De riches se sont faits pauvres, sans ménager leurs efforts et exposant leur vie à tous les dangers. Et plus que de la science au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est un savoir global que les écoliers, c'est ainsi qu'on les appelait, allaient acquérir dans des universités étrangères. On y apprenait surtout le droit et la théologie, et on y parlait latin, ce qui facilitait les échanges. Et l'on peut dire que ces voyages préfigurent l'Europe humaniste et universaliste qui adviendra à la Renaissance, notamment avec notre ami Erasme.
Mais vous avez évoqué aussi les pèlerinages.
Oui, car c'est bien dans ces mêmes époques l'autre grand motif de voyager, mais à pied. À pied, bien sûr, car c'est à l'époque souvent le seul moyen de locomotion accessible à tous, et parce que le pèlerinage est une démarche spirituelle qui contient une part de sacrifice personnel. Au Moyen-Âge, du fait de la forte implantation de la religion chrétienne dans toute l'Europe, la pratique du pèlerinage se développe et se structure en un certain nombre de chemins qui mènent les pèlerins de toutes les régions et villes du continent. On part de Paris, comme d'Édimbourg, de Cracovie ou de Barcelone, vers ce que l'on appelait les saints lieux.
Alors, est-ce que l'on sait quelles étaient les destinations les plus prisées par les pèlerins à cette époque ?
Le lieu saint qui, parmi les premiers à attirer les pèlerins, on dit même qu'un Bordelais aurait fait le voyage dès l'an 333.
Ça remonte.
N'est ni le plus proche, ni le plus accessible des lieux, mais c'est le berceau du christianisme, la ville de Jérusalem, dans la Palestine d'alors. On peut y accéder par voie terrestre depuis l'Europe du Nord, par les Balkans, puis l'Asie mineure, la Turquie actuelle, mais aussi par voie maritime depuis les ports de la Méditerranée. C'est un périple long et périlleux qui demande une certaine préparation. Et c'est ainsi que, au XIIe et XIIIe siècle déjà, apparaissent les premiers, ce que l'on appellerait aujourd'hui les guides touristiques en quelque sorte, ces itinéraires ou chemins pour aller à Jérusalem. Les pèlerinages en Terre Sainte seront fortement perturbés après la prise de Jérusalem par les Arabes à la fin du XIe siècle, qui entraînera différentes croisades présentées à l'époque comme des pèlerinages armés.
Alors, cela dit, quand on dit pèlerinage, c'est mon cas, je pense que c'est le cas de beaucoup d'auditeurs aussi, on pense immédiatement à Saint-Jacques de Compostelle.
Bien sûr, j'y arriverai. Mais il y a un autre lieu mythique ou mystique pour les chrétiens, c'est la ville de Rome, le siège de la papauté, la capitale du christianisme, d'où l'on se rend même depuis Canterbury en Angleterre, par ce que l'on appelait la voie francigène, un chemin de pèlerinage qui traverse la France et la Suisse dès l'an 990. Mais au XVIe siècle, le protestantisme qui s'est implanté en Europe du Nord condamne les pèlerinages, accusés entre autres, selon Luther et ses disciples, de favoriser l'idolâtrie, le culte et le trafic des reliques. Une des destinations les plus en vogue est, à l'époque, Notre-Dame de Lorette, le premier sanctuaire marial situé dans la petite cité de Loreto, en Italie, où, selon la légende, aurait été transporté par des anges depuis la Palestine, la maison natale de la Vierge Marie. Et j'en viens bien sûr à Saint-Jacques de Compostelle, ce sanctuaire édifié dans le nord-ouest de l'Espagne qui, depuis le Moyen-Âge, est un des centres de pèlerinage les plus importants d'Europe et où l'on accède par différents chemins. Et c'est sur cette destination, redevenue depuis quelque temps la destination préférée de nombreux marcheurs européens, croyants ou non d'ailleurs, et qui a obtenu, j'en reparlerai, un label européen, que je terminerai cette première chronique consacrée aux chemins européens.
Que vous poursuivrez, je suppose, la semaine prochaine.
Oui, en avançant dans le temps et sur de nouveaux chemins.
Le temps de récupérer nos bâtons de pèlerin et on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine Jean-Pierre.
Et bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.